Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de l'émission Constellation et en direct. Si l'on se rappelle la dédicace adressée par Charles Baudelaire au seuil des fleurs du mal à Théophile Gautier, on devra aussi souligner que la louange, l'hommage appuyé au poète impeccable, au parfait magicien S lettres françaises, ne peuvent pas, en 1857, désigner le recueil Émaux et Camées, qui, à cette date, ne représente encore qu'une vingtaine de poèmes. Baudelaire, peu avant, avait déclaré « J'ai voulu rendre un hommage profond à l'auteur d'Albertus, de la Comédie de la mort et d'Espagne ». L'étude que Charles Baudelaire a consacrée à Théophile Gautier contient la célèbre formule « La poésie n'a pas d'autre but qu'elle-même ». Et un peu plus loin, il ajoute « La poésie ne peut pas, sous peine de mort ou de déchéance, s'assimiler à la science ou à la morale ». Elle n'a pas la vérité pour objet, elle n'a qu'elle-même. On voit par là combien Baudelaire se sent proche de la fameuse théorie de l'art pour l'art prônée par Gautier. Baudelaire admire chez lui la maîtrise de la langue au point que la formule de la dédicace était, primitivement, au parfait magicien S langue française, étonnante incorrection grammaticale qui ne sera corrigée que par le sacrifice de la précision, est-ce lettre française, dira le texte définitif. J'emprunte cette précision à la préface que rédige Claudine Gautot-Mersch pour l'édition NRF Poésie Gallimard, des Mots et Camées. Ô combien, lui aussi poète impeccable, Baudelaire, évoquant plus tard et Mots et Camées, soulignera cette prouesse. Gautier a introduit, je le cite, systématiquement et continuellement la magie de l'alexandrin dans le vers octosyllabique. C'est ce que précise aussi la préfacière déjà nommée, je la cite. L'élément déterminant pour l'impression de netteté et de concentration, c'est évidemment le modèle strophique adopté par Gautier. À l'exception du premier poème et des trois derniers, Émaux et Camées est tout entier en quatrains d'octosyllabes à rimes croisées, féminine puis masculine. Tour de force, assurément, et exercice d'assaise que l'utilisation du même moule pour tous les sujets, madrigal, récit, sérénade, description, rêve exotique. Baudelaire ajoute encore, rappellerai-je encore cette série de petits poèmes de quelques strophes qui sont des intermèdes galants ou rêveurs et qui ressemblent les uns à des sculptures, les autres à des fleurs, d'autres à des bijoux, mais tous revêtus d'une couleur plus fine ou plus brillante que les couleurs de la Chine ou de l'Inde, et tous d'une coupe plus pure et plus décidée que des objets de marbre ou de cristal. Quiconque aime la poésie les sait par cœur. Rappelons qu'un camé est une pierre fine ou ornementale sculptée en bas-relief, par opposition à l'intaille sculptée en creux, de façon à faire ressortir un motif clair sur un fond plus sombre. À l'origine, il s'agissait d'agates rubanées, dont les couches naturelles de couleurs différentes permettaient de créer des contrastes spectaculaires entre la figure représentée et son arrière-plan. L'étymologie la plus crédible rattache camaïeu au grec keiméléon, objet rare et précieux, dérivé de keimélia, les trésors ou joyaux conservés dans les palais et les sanctuaires. Il convient alors de citer le dernier poème du recueil Émaux et Camées, intitulé « L'art », qui représente sui generis l'art poétique propre à Théophile Gautier. L'art. Oui, l'œuvre sort plus belle d'une forme au travail rebelle, vert, marbre, onyx, émail. Point de contrainte fausse, mais que pour marcher droit, tu chausses, muse, un coturne étroit. Fille du rythme commode, comme un soulier trop grand du mode que tout pied quitte et prend. Statuaire, repousse l'argile que pétrit le pouce, quand flotte ailleurs l'esprit. Lutte avec le carrare, avec le paros dur et rare, gardien du contour pur. Emprunte à Syracuse son bronze où fermement s'accuse le très fier et charmant. D'une main délicate, poursuit dans un filon d'agate le profil d'Apollon. Peintre, fuis l'aquarelle et fixe la couleur trop frêle au four de l'émailleur. Fais les sirènes bleues, tordant de cent façons leur queue, les monstres des blasons. Dans son nimbe trilobe, la Vierge et son Jésus, le globe avec la croix dessus. Tout passe, l'art robuste seul à l'éternité, le buste survit à la cité. Et la médaille austère que trouve un laboureur sous terre révèle un empereur. Les dieux eux-mêmes meurent, mais les vers souverains demeurent plus forts que les airains. Sculpte, lime, cisèle, que ton rêve flottant se scelle dans le bloc résistant. Par ailleurs, la mort de Théophile Gautier le 23 octobre 1872 à Paris donna lieu à la reviviscence du genre poétique baroque et musical du tombeau. En musique, cela va du tombeau de Monsieur de Blanc-Rocher par Jacob Froberger jusqu'à celui de Maurice Ravel pour François Couperin. Pour Théophile Gautier en l'espèce, et à commencer par Victor Hugo, 83 collaborateurs, dont Anatole France, Léon Dierx et tant d'autres poètes aujourd'hui oubliés, forgèrent des textes hommages pour honorer le grand chantre de la bataille d'Hernani. À leur tour, ces textes, réunis en volume, serviront de modèle et d'instigateur pour les sonnets tombeaux de Charles Baudelaire, d'Edgar Poe et de Paul Verlaine, qu'écrivit Stéphane Mallarmé. Découvrons à présent quelques émaux, quelques camées, pour faire pièce à la préfacière déjà citée, qui juge assez négativement le recueil de Gautier en le cantonnant à un charme un peu désuet, une culture très datée, un art mineur mais parfait. Je cite ses propres formules. Voici un premier texte intitulé « Coquetterie posthume ». Quand je mourrai, que l'on me mette, avant de clouer mon cercueil, un peu de rouge à la pommette, un peu de noir au bord de l'œil, car je veux, dans ma bière close, comme le soir de son aveu, rester éternellement rose avec du kohl sous mon œil bleu. Pas de suaire en toile fine, mais drapez-moi dans les plis blancs de ma robe de mousseline, de ma robe à 13 volants. C'est ma parure préférée, je la portais quand je lui plus. Son regard l'a sacrée, et depuis je ne la mis plus. Posez-moi, sans jaune immortel, sans coussin de larmes brodées, sur mon oreiller de dentelle, de ma chevelure inondée. Cet oreiller, dans les nuits folles, a vu dormir nos fronts unis, et sous le drap noir des gondoles, compter nos baisers infinis. Entre mes mains de cire pâle, que la prière réunit, tournez ce chapelet d'opale par le pape à Rome béni. Je l'égrainerai dans la couche d'où nul encore ne s'est levé. Sa bouche en a dit sur ma bouche chaque pater et chaque ave. a une robe rose. Que tu me plais dans cette robe qui te déshabille si bien, faisant jaillir ta gorge en globe, montrant tout nu ton bras païen. Frêle comme une aile d'abeille, frais comme un cœur de roseté, son tissu caresse vermeil, voltige autour de ta beauté. De l'épiderme sur la soie glissent des frissons argentés, et l'étoffe à la chair renvoie ses éclairs roses reflétés. D'où te vient cette robe étrange qui semble faite de ta chair, trame vivante qui mélange avec ta peau son rose clair? Est-ce à la rougeur de l'aurore, à la coquille de Vénus, aux boutons de sein près d'éclore, que sont pris ces tons inconnus? Ou bien l'étoffe est-elle teinte dans les roses de ta pudeur? Non, 20 fois modelée et peinte, ta forme connaît sa splendeur. Jetant le voile qui te pèse, réalité que l'art rêva, comme la princesse Borghèse, tu poserais pour Canova. Et ces plis roses sont les lèvres de mes désirs inapaisés, mettant au corps, dont tu les sèvres, une tunique de baisers. Le monde est méchant. Le monde est méchant, ma petite. Avec son sourire moqueur, il dit qu'à ton côté palpite une montre en place de cœur. Pourtant, ton sein ému s'élève et s'abaisse comme la mer au bouillonnement de la sève circulant sous ta jeune chair. Le monde est méchant, ma petite. Il dit que tes yeux vifs sont morts et se meuvent dans leur orbite à temps égaux et par ressort. Pourtant, une larme irisée tremble à tes cils, mouvant rideau, comme une perle de rosée qui n'est pas prise au verre d'eau. Le monde est méchant, ma petite. Il dit que tu n'as pas d'esprit et que les vers qu'on te récite sont pour toi comme du sanskrit. Pourtant, sur ta bouche vermeille, fleur, s'ouvrant et se refermant, le rire, intelligente abeille, se pose à chaque trait charmant. C'est que tu m'aimes, ma petite, et que tu hais tous ces gens-là. Quitte-moi, comme ils diront vite, quel cœur et quel esprit est là. L'aveugle. Un aveugle au coin d'une borne, hagard comme au jour un hibou, sur son flageolet d'un air morne, tâtonne en se trompant de trou et joue un ancien vaudeville qu'il fausse imperturbablement. Son chien le conduit par la ville, spectre diurne à l'œil dormant. Les jours sur lui passent sans luire. Sombre, il entend le monde obscur et la vie invisible bruire comme un torrent derrière un mur. Dieu sait quelle chimère noire hante cet opaque cerveau et quels illisibles grimoires l'idée écrite en ce caveau. Ainsi, dans les puits de Venise, un prisonnier à demi fou, pendant sa nuit qui s'éternise, grave des mots avec un clou. Mais peut-être aux heures funèbres, quand la mort souffle le flambeau, l'âme, habituée aux ténèbres, y verra clair dans le tombeau. les accroche-cœurs, ravivant les langueurs nacrées de tes yeux battus et vainqueurs, en mèches de parfums lustrés se courbent deux accroche-cœurs. À voir s'arrondir sur tes joues leurs orbes tournés par tes doigts, on dirait les petites roues du char de Mab fait d'une noix, ou l'arc de l'amour dont les pointes, pour une flèche à décocher, en cercle d'or se sont rejointes à la tempe du jeune archer. Pourtant, un scrupule me trouble. Je n'ai qu'un cœur. Alors pourquoi, coquette, un accroche-cœur double ? Qui donc y pends-tu près de moi ? La rose T, la plus délicate des roses, est, à coup sûr, la rose T. Son bouton aux feuilles mi-closes, de carmin à peine éteinté. On dirait une rose blanche qu'aurait fait rougir de pudeur, en la lutinant sur la branche, un papillon trop plein d'ardeur. Son tissu rose et diaphane, de la chair à le velouter. Auprès, tout incarnat se fane ou prend de la vulgarité. Comme un teint aristocratique noircit les fronts bruns de soleil, de ses sœurs, elle rend rustique le coloris chaud et vermeil. Mais si votre mince qui s'en joue, à quelques balles pour son parfum, la rapproche de votre joue, son frais éclat devient commun. Il n'est pas de rose assez tendre sur la palette du printemps, madame, pour oser prétendre lutter contre vos 17 ans. La peau vaut mieux que le pétale, et le sang pur d'un noble cœur qui sur la jeunesse s'étale de tous les roses et vainqueurs. Carmen. Carmen est maigre, un trait de bistre cerne son œil de gitana. Ses cheveux sont d'un noir sinistre, sa peau le diable la tanna. Les femmes disent qu'elle est laide, mais tous les hommes en sont fous, et l'archevêque de Tolède chante la messe à ses genoux. Car sur sa nuque d'ambre fauve se tord un énorme chignon qui, dénoué, fait dans l'alcôve une mante à son corps mignon. Et, parmi sa pâleur, éclate une bouche au rire vainqueur. Piment rouge, fleur écarlate, qui prend sa pourpre au sang des cœurs. Ainsi faite, la moricaude bat les plus altières beautés, et de ses yeux la lueur chaude rend la flamme aux satiétés. Elle a, dans sa laideur piquante, un grain de sel de cette mer d'où jaillit, nue et provocante, l'âcre Vénus du gouffre amer. Les joujoux de la morte. La petite Marie est morte, et son cercueil est si peu long qu'il tient sous le bras qui l'emporte comme un étui de violon. Sur le tapis et sur la table traîne l'héritage enfantin. Les bras ballants, l'air lamentable, tout affaissé, gît le pantin. Et si la poupée est plus ferme, c'est la faute de son bâton. Dans son œil, une larme germe, un soupir gonfle son carton. Une dinette abandonnée mêle ses plats de bois vernis à la troupe désarçonnée des écuyers de Franconi. La boîte à musique est muette, mais quand on pousse le ressort où se posait sa main fluette, un murmure plaintif en sort. L'émotion chevrotte et tremble dans « Ah, vous dirais-je, maman ?» Le quadrille des lanciers semble triste comme un enterrement, et des pleurs vous mouillent la joue quand la donna immobile, sur le rouleau qui tourne et joue, expire
avec un son filé. Le cœur se navre à ce mélange puérilement douloureux. Joujou d'enfant laissé par l'ange, berceau que la tombe a fait creux. Un dernier poème intitulé « La nue » au sens de nuage. À l'horizon monte une nue, sculptant sa forme dans l'azur. On dirait une vierge nue, émergeant d'un lac au flot pur. Debout dans sa conque nacrée, elle vogue sur le bleu clair. Comme une Aphrodite éthérée, faite de l'écume de l'air. On voit onder en molle pose son torse au contour incertain, et l'aurore répand des roses sur son épaule de satin. Ses blancheurs de marbre et de neige se fondent amoureusement comme au clair-obscur du corège, le corps d'Antiope dormant. Elle plane dans la lumière, plus haut que l'Alpe ou l'Apennin. Reflet de la beauté première, sœur de l'éternel féminin. À son corps, en vain retenu sur l'aile de la passion, mon âme vole à cette nue et l'embrasse comme Ixion. La raison dit, vague fumée, où l'on croit voir ce qu'on rêva, ombre au gré du vent déformé, bulle qui crève et qui s'en va. Le sentiment répond, qu'importe, qu'est-ce après tout que la beauté ? Spectre charmant qu'un souffle emporte et qui n'est rien ayant été. À l'idéal, ouvre ton âme, mets dans ton cœur beaucoup de ciel. Aime une nue, aime une femme, mais aime, c'est l'essentiel. Au cours de cette émission, vous avez pu entendre trois extraits de musique de Maurice Ravel. D'abord, le morceau intitulé « Forlan », extrait du Tombeau de Couperin, interprété par le pianiste Grégory Sokolov, puis toujours interprété par Sokolov, le morceau intitulé « Menuet », toujours extrait du Tombeau de Couperin. Et enfin, le morceau tiré de « Miroir », le morceau intitulé « Oiseau triste », interprété par le pianiste Seong Jin Cho.
Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi l'écouter, la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.